fois, on a des crises aussi aujourd'hui. On se dit, bon, ok, il faut les trajets, étudier tout ça, mais des fois, il y a peut-être des actions, des trucs à mener, des choses à faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans la Torah, donc des ramazines, des idées que je dois faire?
Je ne sais pas si dans la Torah, en tout cas, dans l'esprit de la Torah, oui. Il faut comprendre comment ça se passe. On a des gdolés, on a des grands de la Torah. Et c'est quoi un grand de la Torah? La Torah, elle est magique. Tu ne peux pas avoir une grande connaissance de Torah sans être toi-même déjà pur et saint. Parce que ce sont des masses d'informations colossales, inhumaines, des facultés de mémorisation qu'il faut tout à fait anormales. Et en plus, vous-même qui étudiez, vous savez que c'est pas toujours qu'on comprend. Il faut... Tu étudies Gemara 10 fois, t'as pas compris, à la 11e fois, t'as compris. Pourquoi? Tu n'es pas plus intelligent à la 11e fois qu'à la 10e fois. C'est magique, c'est-à-dire... Tu répètes, et quand Dieu veut, quand tu mérites, clac. La mystique juive a même expliqué que la Torah, la compréhension de la Torah, c'est une lumière. Maintenant, chaque fois qu'il y a une compréhension plus profonde, tu as une klipa, tu as une écorce négative, de force négative qui empêche de comprendre. Les choses qui sont relativement simples, l'écorce, elle est très fine. Tu dois lire une fois, faire l'effort de lire quand même pour se concentrer. Quand c'est déjà plus dur, il faut lire 2, 3 fois, des fois 5, des fois 10, des fois 100, des fois 1000, pour casser. Et plus la lumière, elle est grande, plus la clipa qui l'entoure, l'écorce, elle est grande aussi. Maintenant, pour arriver à atteindre la lumière qui est à l'intérieur, le fruit, et casser la clipa, c'est pas qu'une question d'effort. Il y a l'effort à fournir, mais il faut aussi que Dieu dise, ok, maintenant, tu mérites. Et pour ça, il faut être pur et saint. Il y a une qualité aussi d'étude, pourquoi tu étudies, les Shem Shamaim, dans quelle mesure tu étudies, ne sont désintéressés, pas pour le kavod, pas pour le livre que tu vas écrire, on va t'aduler. L'adulation, c'est quand même un très très grand shochat, un très grand pot de vin. Quelqu'un, il aime être adulé, d'accord? C'est très dur, quand tu écris un livre, tu ne peux pas t'imaginer, les gens vont lire, vont trouver génial ce que je suis en train d'écrire. Comment les gens vont trouver? T'écris pour les gens, pour l'adulation des gens. Est-ce que tu écris Hashem Shamaim maintenant parce que tu aimes la Torah et tu veux maintenant simplement que les Akot Arabim, tu veux faire profiter le public des profondeurs de Torah qui t'ont été accordées par le ciel. Devenir ce qu'on appelle un Gadol, un grand d'Israël, n'est possible que si, en plus de la normalité, c'est-à-dire qu'il étudie une somme d'heures par jour phénoménale. Le Rav Shtem a été dernièrement en France, et j'ai un ami à Lyon, chez qui il a habité, il m'a dit que sache cet homme-là dort 1h30 par jour, par nuit. Après le déjeuner, il se repose encore un peu, après le déjeuner aussi, il se repose un peu, le reste du temps, il est dans les livres, il étudie. C'est phénoménal.
Une question qui vient, quel est le lien entre la pureté et la kdusha et la mémoire et la compréhension?
Je suis en train d'expliquer. Donc d'abord, il y a la partie qui est normale. Donc, tu dois étudier, pas perdre ton temps, tu dois faire des revisions comme il faut, tout ça c'est normal. Après cela, ça ne te fait pas de toi encore un grand. Ça te fait déjà peut-être un Tamid Chacham, tu es un sage, tu connais beaucoup, beaucoup de la Torah, tu n'es pas encore un des grands d'Israël. Être un grand d'Israël, là il faut déjà rentrer dans une autre sphère qui est, comme je dis, magique. Ça provient uniquement de la sainteté et de la pureté. Alors, quelle est la question? Comment on arrive à sainteté et pureté?
La sainteté et la pureté, je vais protéger mes yeux, je vais faire une mitzvot, je vais être...
Les Shem Shamaim...
La compréhension et la mémoire qui sont des choses qui se travaillent, finalement. Même des gens dans l'enfant, ils ont ça. À force des...
Aussi, alors, mais il y a une partie qui est normale, une partie qui devient anormale. Il y a le muscle du cerveau, on sait qu'on utilise un homme normal, tu sais que 10% de ses facultés cérébrales, tu vas muscler, tu vas arriver à 11, 12, 13, 15%, je ne sais pas, d'accord? Mais après, au bout d'un moment, forcément, il faut des choses qui sont du domaine mystique. Il faut Ruach, Neshama, des lumières divines qui rentrent en toi, qui te permettent d'avoir une amplification de tes facultés énorme, mais qui n'est possible que grâce à la sainteté. La sainteté s'obtient par... pas faire des averotes, ne pas penser à la matière, penser à Dieu. Et le fait d'étudier la Torah avec peine, ça sanctifie énormément la personne aussi. Quand c'est l'Hashem Shammai. Au bout d'un moment, ces personnes-là qui se sont purifiées et sanctifiées obtiennent ce qui s'appelle Da'at Torah. Ils sont tellement imprégnés de la Torah que, de façon magique, du ciel, on fait que quand ils sortent une, chose de leur bouche, cette chose, elle est vraie. Parce qu'ils sont le monde est, est géré par la Torah, est régi par la Torah. Vu que lui, il a Da'at Torah, il a déjà la connaissance, il a l'opinion de la Torah, surtout, il donne des conseils et on voit que ça marche. Je ne parle pas maintenant de Roi HaKodesh, des choses qui sont complètement... Roi HaKodesh, t'as des grands rabbins, comme le Rabbi Sion, dont c'est le Yortzat aujourd'hui, le Rabbi Mikhaïlovski, qui voit carrément. Mais même sans cela, sans voir, le fait qu'un homme pur maintenant, les Shem Shamaim te donnent maintenant un conseil, du ciel, on l'aide. Du ciel, on l'aide à ne pas faire d'erreur. Donc quand nous avons maintenant des cas qui ne sont pas enregistrés, légiférés dans le Shulchan Aruch, alors on a une pulsion, par exemple, maintenant, une initiative, comme tu dis. Moi, j'ai envie maintenant d'ouvrir, je réfléchis maintenant, ça serait bien que on fasse de la Torah, je ne sais pas moi, comment on va faire ça, trouve-moi une idée, je sais pas, un truc révolutionnaire, extraordinaire qu'on va faire pour sauver le pour sauver l'humanité. D'accord ? On va faire, je sais pas moi. D'accord ? T'as une idée extraordinaire. Bon. Première chose, tu vas voir un gadol, un grand de la Torah. Tu dis, ouais, j'ai une idée. Comme ça, tac, tac, tac. Tu poses des questions et va tout de suite voir d'où ça provient. C'est l'imagination. J'avais une tante. Vous voulez amener, elle avait comme but dans la vie, amener la paix dans le monde. Déjà, vous rigolez quand je dis ça, d'accord? Mais bon, on va rappeler ça une fois, elle va pas. Elle a 10 millions, elle a imagination. Bon, elle n'a pas cru, elle a resté dans son truc, vous savez, d'accord, la pauvre. C'est des choses que nous comprenons. Ça aussi, tu as un peu de Da'at Torah. Maintenant, quand tu montes, alors des fois par toi-même, tu vois que c'est tout à fait. Tu peux déjà gérer par toi-même, et quand des fois, tu ne sais pas, alors on va voir, des grandes Torah. C'est à ça que sert les grandes Torah. C'est pas pour me dire des questions de... Je peux ouvrir un livre et le rabbin du quartier peut aussi répondre aux questions qui sont marquées dans les livres. Quand on voit un grand, c'est que c'est vraiment... On a un doute et il faut vraiment un avis là qui provient de là-haut. Un point tel que dit l'Agmara, Chacham Adif Minavi, un sage est plus grand qu'un prophète. Comme un prophète. Moshe Rabbeinu. Tu veux dire, allez, tu veux dire... Attends, je demande Dieu. Dieu a dit comme ça. C'est bon comme réponse. C'est impeccable. La Torah dit, c'est moins qu'un chacham. C'est moins qu'un sage d'Israël. Pardon ? Après, mon Chabonneau, il était aussi le plus grand sage d'Israël. Donc, dans le cas de Moshe, ce n'était pas tout à fait adéquat. Mais quelqu'un qui est prophète. C'est marqué qu'il y a eu 1 200 000 prophètes dans l'histoire du peuple d'Israël. 48 ont été inscrits parce que leurs prophéties concernent les générations à venir. Et dans chaque bled, tu avais un prophète. La personne sainte du bled, du village, qui sanctifiait, et on allait le voir. Alors voilà, je vais rencontrer une fille maintenant. Est-ce que c'est mon zivoug, oui ou non? Oui. Non. Oh, un sage d'Israël qui voit rien du tout. Il voit rien. Il posera quelques questions. Oui, non, comme ça, tac, 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 tac. Il te dira. Et qu'est-ce qui vaut mieux comme réponse? Celle du Chacham. Racontez une histoire. Je connais un monsieur qui est un Tamil Chacham, Yire Shamayim. Un vrai monsieur qui a vraiment la crainte du ciel, qui est Baal Tshuva. Un vieux Baal Tshuva d'il y a longtemps, il est grand-père aujourd'hui, et qui a reçu Roi HaKodesh. Il m'a dit une fois qu'il a beaucoup travaillé au niveau des yeux. De ne pas regarder les femmes, il a vraiment fait des efforts très grands, et là, sur Roi HaKodesh, un beau jour, il commençait à voir des choses. Alors, il habite dans un quartier, c'est tout des Ashkenazim litvish, d'accord ? type qui comme, il se fait descendre tout de suite, parce qu'ils n'aiment pas du tout ça. Ils aiment les gens. Alors, il se fait pas, il est pas, il est pas, il montre jamais qu'il a ça, mais des fois il donne des conseils et il y a du. Un jour il m'a contacté, il voulait venir avec moi en France pour faire du Kirouf. Il va dans les séminaires, moi je suis dans les séminaires, puis lui il ferait du counseling avec les gens, tout ça, avec mais en voyant. C'est bien. Ça me gênait. C'est parce que j'étais éduqué que on n'est pas dans le genre voyant. Il y a un truc qui est plus haut, c'est la raison. Le voyant, c'est dans les yeux. La raison, c'est dans la tête, qui est plus haut. On dit que le corps, il est bâti de bas en haut. La voix, c'est plus bas dans le visage. Tu peux crier. La nuit, dans le désert, on t'entend à combien de kilomètres? 3-4 kilomètres. Après, tu as les oreilles. Tu peux entendre un avion qui est à 20 kilomètres. Après, les yeux, tu peux voir une étoile qui se trouve à 20 milliards d'années-lumière. Non, 20 milliards, pas. 20 millions d'années-lumière. Tu la vois. Après, tu as la tête. Elle est beau Dieu. Elle va beaucoup plus haut. Je dis, ok, je suis d'accord, mais je peux pas lui dire non comme ça. Je dis, d'accord, mais je vais aller voir un gadol. Bon. Il me dit, quel gadol? Le Rav Eliashiv. Deux fois on a été, deux fois on n'a pas pu rentrer. Il y a trop de monde, machin, tout ça, refoulé. Alors il m'appelle, écoutez, on va aller, allons voir le nom d'un grand. C'est pas de la première, c'est pas les 3-4 plus grands, mais c'est dans les 10 plus grands. Et bon, je suis d'accord, pourquoi pas, on va le voir. Il dit, oui, il dit, pourquoi pas, très bien, tout ça, il accepte. Ça m'a gêné, parce que c'est pas mon truc, j'arrive pas à sentir ça. Je me suis dit, lui alors, vu qu'il a Warakod, il a sûrement vu que Rav Eliashiv, il m'a dit, on a fait Rav Eliashiv, on serait bloqué. Et le rabbin qui dirait, oui, peut-être c'est tout manigancé. Alors sans lui dire, hein? C'est vrai, mais peut-être qu'il n'a pas pensé à ça. Il faut, j'imagine que tu as concentré sur sa pensée sur des choses. J'en ai parlé à mon Ravruta, qui était mon Rav à l'époque, qui m'a conseillé d'aller voir Rav Shmuel Auerbach, un des 4-5 plus grands rabbins au monde aujourd'hui. Alors je viens et je lui dis comme ça, et je dis voilà, j'ai vu un monsieur, il a un pouvoir dans les yeux, on dit Yeshua Enam, il a des yeux. Et il veut aller avec moi à un séminaire, tout ça. Alors il a dit, tu lui diras que lui il a des yeux, mais toi tu as de la tête. Il a éclaté de rire. Du genre exactement, il y a les yeux, mais il y a la tête aussi. D'accord? Que tout à fait, c'est pas la façon qu'il faut faire. Et là, l'histoire, elle s'est arrêtée. Et pourquoi? Ouais. Mais Reb Shmuel, c'est un plus grand que l'autre aussi, c'est un grand. Il y a un malheur, il y a une conduite pareille qui est un peu magique, mais elle est, je ne dis pas que c'est faux, c'est ça le prophète c'est magique, il te dit, voilà, c'est comme ça. Un sage, c'est plus grand que cela. Chacham, je vous ai raconté très souvent cette histoire qui est marquée dans la Gemara, traité Shabbat, page 108. Il y a eu les générations des Tanaïm, les rabbins de la Mishnah. Le dernier, celui qui écrit toute la Mishnah, s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'on appelle la Gemara, on l'appelle Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Dès la mort de Rabbi, on passe à une autre génération, qui est la génération des Amoraïm, c'est les rabbins de la Gemara. Le Rav, le grand Rav de la première génération, celui qui était un élève de Rabbi, on l'appelle Rav. Son vrai nom, c'est Rabbi Abba. Mais la Gemara, on l'appelle Rav. Et tous les rabbins Amoraïm, qui n'habitaient pas en terre d'Israël, on les appelait Rav. Tu as Rabbi Yehuda, c'est un Tana, mais tu as aussi Rav Yehuda, deux personnes différentes. C'est le même nom, mais Rabbi, c'est un Tana, Rav, c'est un Amora. Deux époques et deux statuts. Jamais un Amora peut dire une chose contre un Tana. Impossible. Celui le Rav de la transition s'appelle Rav. Rav est le seul qui est un Amora, mais Tana ou Palig. Il peut, il y en a d'autres aussi, Rabbi Yochanan, des fois, mais Rav et Rabbi Yochanan sont les seuls deux qui peuvent aller contre un Tana. Rav. Rav, c'est un rabbin d'un degré énorme. C'est marqué dans Tshuvot HaGeonim, responsable des Geonim, qu'il prenait sur lui 10 Khumrot. 10 mesure de piété non obligatoire qu'il prenait sur lui. Jamais il a fait 2 mètres dans sa vie sans tefillin. Il a marché 2 mètres sans tefillin. Le jour. Jamais il a dit une parole vaine. On enlève. Ça, c'est bon. Que ça doit être, il les remet. Jamais il a regardé plus loin que ses 2 mètres. Alors, toi, tu ne peux pas voir. Là, ça va. Là, ça va plus. Toute sa vie. Ses élèves ont voulu continuer. C'est impossible, c'est inhumain, on ne va jamais tenir. Alors, il avait 10 élèves, chacun a pris sur lui une chumra. Un de ses élèves s'appelait Rav Sheshat, qui a pris sur lui la chumra de jamais regarder plus loin des 2 mètres. Il a eu peur qu'il ne tiendrait pas le coup, il s'est rendu aveugle. Il s'est aveuglé pour tenir cette chumra de Rav. C'est pas un petit monsieur, Rav, d'accord? Énorme. C'est interdit. Mais des gens de ce calibre, ils savent ce qu'ils font. D'accord? C'est pas à nous leur dire quoi faire. Rav habite la terre d'Israël et décide de descendre, quitter Israël, aller en Babylonie, à Babel. Le plus grand rabbin à l'époque en Babylonie s'appelait Shmuel. Rav et Shmuel, toujours un Gemara, ils sont les deux antagonistes. D'accord? Les deux amis antagonistes. À l'époque, Shmuel était le grand rabbin de Babylonie, le grand sage, et Rav arrive, tout seul comme ça, avec sa canne et sa barbe. Agmar raconte que Shmuel était au bord du fleuve. Et il voit tout à coup l'eau trouble, il y a du mouvement dans l'eau. Il dit, un grand homme arrive d'Israël. Et pourquoi l'eau elle est trouble? Parce que l'eau est en train maintenant de se monter en une muraille pour l'entourer, parce que cet homme-là maintenant, il veut aller aux toilettes. Il n'a pas où aller, alors on lui fait, l'eau fait une barrière autour de lui pour qu'il puisse faire ses besoins dans la pudeur. C'est pas un petit monsieur. Essayez. Oh, lève-toi, oh, lève-toi. Ça ne marchera pas. Shmuel est avec son élève, Karna. Il dit à Karna, va et vérifie si c'est un Talmid Chacham. Et Karna va aller poser des questions. Des questions de Torah, dont on sait que la circoncision se fait à l'organe sexuel et pas autre part. Et Rav lui répond. Karna revient et dit, c'est un Talmid Chacham. Pardon? Pardon?
C'est pas le passé que ça veut
dire? Non. Pas du tout. C'est pas marqué. C'est marqué, la immobile, ça relato. Le 8e jour, on retranchera la chair de son excroissance. C'est quoi une excroissance? Tout ce qui est en trop. Le nez, juif. Excroissance. Lobe de l'oreille, ça sert à rien. C'est marqué dans la Torah, orlat alev. L'excroissance qui recouvre le cœur, la partie du cœur. Donc c'est que c'est l'organe sexuel. Marqué nulle part dans la Torah. On apprend. Il y a les moudes. Bon, il y a toute une suite d'histoires, je ne peux pas la raconter. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment Shmuel, tu vois que l'eau fait maintenant une barrière autour de quelqu'un parce qu'il veut faire ses besoins, tant qu'on vérifie qui il est. C'est un super, super, super tzaddique, terminé. C'est un grand d'Israël. Réponds Shmuel, il n'a pas répondu, mais qu'est-ce qu'il a répondu si on pose la question? Mais il n'y a rien à voir. Le fait d'être quelqu'un qui a des capacités anormal, surnaturel, d'être même un prophète qui voit des choses que le commun des mentales ne voit pas, rien à voir avec sa connaissance de Torah. Un peu, oui, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un de saint si on ne connaît pas ce qui est interdit, permis interdit. Ce n'est pas encore une grandeur en Torah. En Torah, c'est connaître la Torah, pourquoi chaque chose, d'où elle vient, pourquoi, quelle est la racine, et qui, et les avis, etc. Grand Torah. Connaître le désir de Dieu. Non, tu peux être un tzaddik, tu fais tout ce qu'il faut, tu prends Shulchan Aruch, tu fais tout à la lettre. T'es un super tzaddik, t'es un Ruach HaKodesh, t'es un prophète. Mais t'es pas un grand Torah. Et Shmuel, pour lui, c'est de la gnognotte de faire un miracle avec l'eau qui se met autour. On veut voir ce qu'il y a de la Torah. Pour nous, c'est une leçon extraordinaire. Parce que très facilement, surtout les Français, c'est des gens, des Nord-Africains, Sfarad, qui ont d'habitude beaucoup de kavod, ils ne sont pas trop religieux, mais un respect énorme pour la Torah et pour les rabbins. Terrain préférentiel pour tous les faux rabbins, les soi-disant kabbalistes, tous les babas, tous les tordus, charlatans. Le terrain de prédilection de tous ces charlatans, c'est la France. En Israël, ils sont basés tout de suite parce qu'il y a de la Torah. T'es un charlatan, dégage. En Amérique, ils sont majorité ashkénaze. Ça n'intéresse pas les babas comme ça. La seule communauté sfarad qui adule les crétins, les vrais rabbins aussi, mais beaucoup de crétins aussi, c'est les Français. Ils sont ignorants Torah, et facilement, on leur fait du babaïsme, et ils tombent dans le baba. Ils l'ont dans le baba. Torah! Demande-lui. Moi, une fois, au début de ma carrière aussi, je suis tombé dans le panneau des babas, parce qu'aujourd'hui, je suis un échaudé. Comment j'ai vu? C'était la tante de ma femme. On a chez nous un tzaddik, machin, tout ça, tatati, tatata, tout le tralala. On est parti, on est arrivé, ah, le tzaddik, le machin, tout ça. Ok. Une suite inversée. Moi, j'étais un débutant, il se plante dans le verset. C'est un verset qu'on dit, on cite tous les matins avant d'étudier. Gal enai va bita, hein? Nifleot, mitoratecha. Lui, c'était avant l'Akba Omer, il fait un jeu de mots. Gal, c'est lag, d'accord? Et ici, le verset, Gal enai va bit nifleotecha. Comme ça, il le dit. Nifleotecha. Nifleot mitoratecha. C'est quoi ce grand tzaddik là? Déjà, ça sent pas très bien. Moi, je commence à regarder un peu mieux. Vous voyez ma femme, elle se lève. Et je vois les yeux, trac, trac, ah, terminé. Trac, trac. Ça n'attend rien du tout. Et combien on a vu comme ça? Et clac, clac, tout gentil, il y en a qui finissent bien pire, tous ces charlatans. Ça manque pas. Comment je suis arrivé à parler de tout ça? Je parlais des grands de la Torah. Donc, s'il n'y a pas de Torah, c'est rien. Demande-moi, explique-moi tout ça, s'il te plaît. Que la Gemara, la page intel. Voilà. Il ne sait rien. Non, dégage. Ça, c'est la vraie épreuve.
Pourquoi on sait que spécialement le fait de proposer ses yeux, ça nous éclaircit dans la compréhension. Pourquoi c'est ça et pas autre chose?
Non, c'est certain que tout est important, mais les yeux, c'est marqué d'abord que les yeux sont en face du cerveau, donc ça imprègne très fort. La Gemara dit que Enodome Reya Lishmiya, entendre, ça n'a rien à voir avec voir. Voir, c'est beaucoup plus fort. On a un exemple lorsque Achashverosh vient, comment il s'appelait, Harvona. Harvona vient, Achashverosh, il est furieux contre Haman. Et il dit au roi que Haman a élevé dans son jardin un mât de 50 coudées, 25 mètres, pour y pendre Mordechai. Et après, bon, pas la réaction du roi. Après, il lui montre le mât. Le roi voit le mât, il dit « Clou à lave, pendez-le sur ce mât. » Il avait déjà entendu avant. Quand on voit, ça a plus d'impact. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Dans la mystique juive, c'est marqué que les yeux, ils ont un impact très puissant dans notre âme. Maintenant, le contraire de la sainteté, c'est la matérialité. Nous devons utiliser notre corps pour la spiritualité. Faire monter notre corps vers le spirituel. Maintenant, c'est quoi la matérialité? Alors, tu peux regarder un bon plat de spaghetti, une belle bouteille de vin. Bon, mais ce n'est pas un profit du regard. Le profit du regard numéro un, c'est la femme. Il y a un profit, il y a une joie spéciale de regarder une femme, c'est clair. C'est donc tu, 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 tout imbibe de matérialité. Il n'y a pas de plus grande matérialité que cela. Donc, c'est très antithèse par rapport à l'étude de Torah. Sa femme, bien sûr que oui. Il faut la regarder. Mais vu que c'est kadosh, c'est la sainteté, alors ça fait partie de ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait une union entre l'homme et la femme. La femme de ton prochain, ou même la femme de personne, mais c'est pas ta femme. Quand tu la regardes, tu jouis de sa chair. C'est une jouissance. C'est impur. Et c'est impur matériel. Rien à voir. C'est pas une jouissance. Quand tu vois un arbre qui est beau, ou même un homme qui est beau, tu n'as pas des tendances homosexuelles, tu es beau, c'est au contraire spirituel, c'est un louange à Dieu. Ah, comme c'est beau Dieu, ta nature, elle est belle. Quand tu vois une femme qui est belle, tu peux aussi dire, ah Dieu, quelle belle nature tu as créée. C'est vrai, mais il y a ici une jouissance. Une jouissance qui n'est pas au niveau de la du louange de Dieu, une jouissance au niveau des pulsions les plus animales que nous avons. Pourquoi on ne fait pas la bracha aujourd'hui? On n'est plus au niveau de voir une belle femme en louant Dieu. C'est-à-dire que ce soit maintenant toute la jouissance que j'ai sera une jouissance spirituelle. Mais c'est très dur de parler à une femme sans la regarder. C'est un tour de magie. C'est de l'acrobatie. C'est très dur. Et tu peux, en parlant, te dire, voilà, je la parle, mais je ne veux pas la regarder. Et tu la vois. Tu comprends ce que je veux dire? Arriver à lui parler comme tu parles à un homme. Puis, en une seconde, tu peux arriver à, tout à coup, regarder, jouissance de sa beauté. C'est de l'acrobatie. C'est pour ça que les religieux, ils ne regardent pas trop. Tu parles et, comme ça, en passant, pour ne pas être en situation d'acrobatie trop longtemps. Tu fais une seconde sur le fil, tu redescends, une seconde sur le fil, tu ressens. Mais tenir comme ça des heures, c'est pas facile. Une des choses qui sanctifie vraiment la personne, enfin qui impurifie beaucoup la personne, c'est aussi Zera Levatala. Quand on regarde, on y pense. Quand on y pense, ça finit mal. Une histoire terrible. C'est marqué dans la Gemara que celui qui a Zera le Batala la nuit de Kippour, qui s'inquiète parce qu'il finira pas son année. Il finira pas son année. Il mourra durant son année. Et s'il a survécu, alors il peut être heureux parce que c'est certain qu'il n'a pas au monde futur, parce que pour avoir survécu après avoir eu Zera le Batala, une pollution nocturne, à Yom Kippour, il faut que tu aies un mérite tellement grand qu'à tous les coups, t'as Olam Haba. Maintenant, prenez une personne normale, non mariée, la Zera Levatala, combien de fois par année? On va dire 4 fois. 4 fois par année, on va dire. Donc, ça nous fait tous les 3 mois, tous les 90 jours. Tu prends maintenant un public de 100 personnes, de 90 personnes, forcément, Yom Kippour, tu en auras une qui aura eu ça. Et qui passe un Kippour, je ne te dis pas l'angoisse. J'ai eu des élèves qui sont restés, ils ont étudié toute la nuit, assis dans le froid, la nuit de Kippour, pour ne pas aller se coucher de porquer d'avoir zéro la bataille. Donc chaque année, tu en as qui ont ça. Il y en a un qui crie au Stipler, c'est vraiment les Vracha. Le Stipler, c'était le ou un des plus grands rabbins décédé il y a une vingtaine d'années. Et qui dit, voilà, il est très anxieux de ne pas finir son année. Alors il lui écrit, sache, ce qui marque la Gemara, c'est vrai. Mais, quand il a eu Zera Levatala, il a eu le pollution nocturne, pour rien. Alors que du ciel, on l'envoie un signe, maintenant, sache, voilà, ta sentence est déjà signée, tu ne passes pas. Et le signe, on t'envoie ça. Mais si, tu as eu une fois une pensée de bonne femme, ça a attiré sur toi une tum'a, un ruach tum'a, un esprit d'impureté qui est en toi, qui fera que tôt ou tard, ça sortira en Zera Levatala. Et si tu me diras non, tu n'en as jamais eu. Peut-être il y a 10-20 ans, tu as eu. Et 10-20 ans, ce roi Khatouma, il est là. Et un beau jour, ça sort ce jour de Kippour. Donc, n'aie aucun doute, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Donc, c'est vrai ce que la Gemara, mais on parle maintenant quand c'est pour rien. On parle d'un niveau qui ne nous concerne pas, qui peut dire, moi, de ma vie, je n'ai pas eu... Peut-être qu'il y en a, il y a des gens pareils. Il y a des gens pareils ici en Israël, ils sont très saints, qui sont vraiment très saints. Et...
Bon. Ouais, par contre, je peux vous dire, depuis la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas eu de...
Et alors ? Mais tu as 1 million de fois ta pensée, donc, et tu as eu que 9 millions. Tu as eu 10 millions de fois ta pensée, que 9 millions de fois tu as eu Zer al-Batala, il te manque encore 1 million. Tu as 1 million de charges Zer al-Batala qui sont encore en toi. Possible ? Alors j'ai fait toute une série de cours de, que j'appelais prévention sexuelle. Des trucs à faire pour ne pas avoir Zer al-Batala. D'abord protéger les yeux, protéger les pensées. Ok, faire chouva là-dessus. Et puis il y a des trucs, pas dormir sur le ventre, pas dormir sur le dos, pas avoir du fer sur soi quand on dort, pas avoir tout ce qui est des habits qui sont de la partie basse du corps, culottes, chaussettes, pantalons, chaussures, proche de la tête quand on dort. Il y a des versets de protection à dire avant en disant Shema Israël, tous les versets de protection que tu dises. Pas dormir seul dans une chambre, dans le noir, il faut allumer une petite lumière. On a peur de dormir tout seul dans le noir. Pas à cause des fantômes, mais à cause justement des bonnes femmes qui viennent en rêve. C'est les pires fantômes. Et voilà, à peu près ça. Donner la tzedaka. Ça protège. Non, on ne donne pas la tzedaka le soir, c'est pas bien. Donner la tzedaka en général, c'est bien. Ça répare aussi le Zer al-Batala. Et l'étude de Torah, il n'y a pas de meilleure chose pour purifier. Alors, c'est bien le même jour encore au mikvé. C'est bien d'être là encore le même jour au mikvé. C'est marqué que si on va le même jour au mikvé, ça annule le mézik qui a été créé, ça annule le démon qui a été créé. La force négative qu'on crée, elle est annulée. Faire tchouva, dire je regrette, prie à Dieu que ça ne revienne plus. Étudier beaucoup plus. Donner un peu d'argent de sac à aussi, pourquoi pas, très bien.
Si tu es jeune, tu ne peux plus faire un bonjour.
Non. Fais jeune de la parole. Un truc pour avoir Zer al-Batala, c'est sortir de sa bouche des choses interdites. Parler grossièrement, parler de filles, parler de shonara, médisance, mensonge. Tout ce qui est ra, parole vaine. Tout ce qui est... Pourquoi ? Parce que le mot paix, expliquer plus profondément, c'est-à-dire qu'on a plusieurs parties spirituelles en nous. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh correspond au corps. Ruach correspond à la parole. Neshama à la pensée. Maintenant, tu as un organe. Chaychida, c'est plus haut. C'est 4 et 5. Mais on parle des 3 bas. Tu as un organe d'expression du Ruach, c'est la bouche. Paix. Tu as un organe d'expression du corps, c'est l'organe sexuel. Les deux peuvent créer. La bouche, elle crée. Tu peux parler Torah et construire des élèves. Tu peux construire des choses avec la parole. La parole, elle a une portée extraordinaire de construction. La bouche du nefesh, c'est l'organe sexuel. C'est pour ça que le mot qu'on appelle la mila. La mila, c'est l'organe sexuel. Le mot mila en valeur numérique vaut 85. Le mot p, bouche, a même une valeur numérique 85. Et c'est marqué, hein, c'est marqué que Brit Amaor, Kenegel Brit Alashon. L'alliance qu'on a au niveau sexuel, elle est par rapport à l'alliance qu'on a au niveau de la bouche. Donc quand quelqu'un maintenant, il sort de sa bouche des paroles vaines, des paroles interdites, alors il sortira, ça fait que, mais de façon involontaire, au niveau de sa bouche du nefesh, donc la mila, l'organe sexuel, il va sortir des choses interdites aussi, c'est-à-dire du Zer al-Batala.
On risque aussi de passer pour un rabat-joie.
Passe pour un rabat-joie toute ta vie et ne. C'est marqué dans le premier article du Shulchan Aruch que quelqu'un soit appelé un idiot, un imbécile toute sa vie par le monde entier et pas une seconde qu'il ne fâche son créateur. Sois rabat-joie maintenant. On ne t'oblige pas non plus à rien dire. Chavetz Chaim, il ne parle jamais de sa vie, il n'a pas parlé de Shonara, mais il parlait. fais une ta'anit, fais un jeûne de paroles interdites.
Le jour que lui fait ça, il passe pour un associable.
Soit un associable. Si c'est ça, soit associable. Mais je pense qu'on peut tout à fait être sociable sans devoir parler des choses interdites. Beaucoup de gens parlent aucune parole interdite et sont des gens très sociables. Au contraire, tu deviens aimé par les gens. Parce qu'on sait que tu ne vas pas parler mal. Tout ce qu'on va te dire, tu deviens un homme de confiance, on te dit des choses, on sait que tu ne répètes pas. On n'a pas honte de faire des choses devant toi et dire tous les sales coups qu'on a fait pour que tu nous donnes des conseils, parce qu'on sait que tu ne veux pas aller répéter ça aux autres. On commence à t'apprécier énormément. De toute façon, c'est clair dans la vie, tu as deux voies, ou contre Dieu ou avec Dieu. En fin de compte, avec Dieu, ça paye toujours mieux que contre Dieu. Bah, ou Hadonai, là, maman, maman.